Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous avec l'Olympique de Marseille qui n'est pas dans la forme de sa vie. Voilà, on va le dire de suite, 12e du classement de Ligue 1, mais on va en parler en détail, en profondeur avec Alexandre Jacquin. Salut Alexandre, chef
Salut
des sports
Romain.
à la Provence. C'est la première fois qu'on te
J'ai
reçoit
mis une
sur le
belle veste.
plateau avec, voilà, avec ce titre.
Bien bleu.
Donc on a la veste de la fonction.
Voilà.
Le costume n'est pas trop grand, comme on dit dans le jargon. En face de toi, Rodolphe Tapie est
Salut
avec nous.
Romain. Merci de
Salut,
l'invitation. C'est cool.
supporter de l'Olympique de Marseille.
Depuis longtemps.
Et oui, allez, on va le faire de suite, comme ça au moins c'est fait, parce qu'il y a 8000 questions forcément sur le sujet. Tu l'as regardé ou pas la série sur Netflix?
J'ai regardé le premier épisode. Je me suis arrêté là pour l'instant. J'ai eu beaucoup d'émotions. En fait, je suis quelqu'un d'assez émotif. Et j'étais avec ma chérie, j'ai regardé le premier épisode et j'ai vu ma grand-mère, la première scène où il débarque dans la prison avec tous les prisonniers qui crient tapis. Donc, je fais bon, j'ai fini l'épisode. Sympa, pas vraiment révélateur de ce qu'il a vraiment fait dans la vie. Après,
Oui,
j'en ai parlé.
rappelons que c'est de la fiction.
C'est beaucoup de fiction. J'en ai parlé un
Après,
peu
c'est
avec ma
assez
famille
fidèle au
aussi.
personnage, mais ça reste
C'est
dans les
fidèle au
détails de
personnage,
la
oui.
fiction.
Maintenant, dans les faits qui ont été relatés dans la série. Ça s'est vraiment pas passé comme ça dans la vraie vie en fait. J'en ai parlé avec mon petit frère qui l'a vu, mes parents, etc. Il y a plein de choses, ils ont brodé. On sort vraiment de la réalité et que ce soit dans la vie privée, ma mère s'appelle Stéphanie.
Oui, voilà, il y a d'autres.
Elle a rencontré mon père en 94, je suis né en 87. Voilà.
Ouais, il y a d'autres choses
C'est ça.
évidemment, mais ça reste voilà une
Mais
note.
on m'a dit, voilà, si on prend cette série en tant que fiction, c'est une très bonne fiction. Laurent Lafitte incarne parfaitement le rôle de mon grand-père. C'est une très belle fiction, c'est très intéressant, c'est bien ficelé, ça a bien été tourné. Il y a des bons acteurs, franchement, non, c'est. Moi, j'ai eu des bons retours de ma famille, alors qu'au départ, on était un peu
Sceptique,
sceptique,
ce qui peut se
exactement.
comprendre. Voilà, vous pouvez aussi vous faire votre avis et surtout rester pour parler de l'Olympique de Marseille. Dans une première partie, on va revenir sur les premiers pas de Rino Gattuso à l'Olympique de Marseille. On va revenir aussi dans une deuxième partie sur la relation entre Longoria et les supporters. On va faire le point. Virage Marseille, c'est maintenant. C'était des débuts parfaits pour Gattuso à l'Olympique de Marseille. Première minute de jeu, premier but sur la première action, avec voilà, une action construite. C'était top. Malheureusement, derrière, il y a eu 89 autres minutes et l'OM s'est incliné à Monaco. Qu'est-ce que tu retiens, Alexandre, de cette première pour le coach italien?
Je vais le dédouaner déjà, parce que c'est pas évident d'arriver dans ce contexte. Ce que je retiens, c'est qu'il faudrait que les matchs durent 45 minutes pour cette équipe. Et je me demande, non mais je me demande vraiment ce qu'ils ont fait cet été avec Marcelino. Parce que à ce stade de la saison, quand l'OM mène 1-0, puis mène 2, tu peux pas te permettre de perdre 3-2 et d'avoir si peu d'énergie. Parce qu'on peut pas dire que. Enfin, on va revenir sur l'histoire de mouiller le maillot. Mouiller le maillot, il le mouillait. Parce qu'ils sont cuits, quoi. Moi, je regardais ça, j'avais l'impression d'avoir une équipe qui ne pouvait plus revenir sur le plan physique. Alors, après, il y a certains joueurs, on peut débattre de leur motivation, de leur degré de motivation, mais sur le plan physique, à la 60e minute, j'avais l'impression d'avoir une équipe, et pourtant, ça n'a pas joué le jeudi. Donc enfin, tu pouvais mettre Bielsa, Gattuso, peut mettre Guardiola. Je crois que là, s'ils n'ont pas fait de travail cet été, ou si c'était un peu le Club Med quand ils étaient en Allemagne, forcément, ça se paye maintenant, quoi.
On va l'écouter, le coach italien. Alors lui, voilà, il ne se dédouane pas lui-même, mais il semble un peu, pour l'instant, plutôt doux avec ses joueurs.
Mi è piaciuto la personalità dei miei giocatori.
Ce qui m'a plu, c'est la personnalité de l'équipe. On peut mieux faire. Ça s'est joué sur des détails. On aurait pu éviter ces 3 buts. Ça nous a condamnés. L'équipe a attaqué jusqu'à la fin. C'est ce que je retiens, l'état d'esprit.
Ma non perdere la fine all'ultimo minuto.
Rodolphe, est-ce que tu avais des attentes particulières pour sa première, sachant qu'il arrive le mercredi, voilà, il est sur le banc le samedi, c'est compliqué.
J'ai trouvé que, hormis Gigot, on avait des enfants, des petits poussins qui étaient là, qui n'osaient pas aller au contact. J'ai vu des moments où, par exemple, c'est bête, hein, mais à un moment donné, il y a une remise en jeu pour nous. Et comme à chaque fois, tu as souvent l'adversaire qui garde le ballon un peu, qui tricote pour pas le rendre. Et on le regarde faire. Sans rien dire, tranquille, il passe, il dribble, il s'amuse à dribbler les joueurs. Ça, c'est un truc qui me dérange en fait. Genre, t'es en train de perdre, tu dois prouver à tes supporters qui sont là en masse, et tu le laisses faire, tranquille, il reste 20 minutes de jeu, il y a eu un gros manque d'agressivité, ça m'a beaucoup dérangé.
Est-ce que ces joueurs-là peuvent le faire? C'est ça la question, quoi. Est-ce que le profil, est-ce que mais cette
pourquoi,
équipe-là.
Pourquoi il ne pourrait pas? Mais je pense qu'il manque de leader, en fait.
Voilà.
Il manque un leader, il manque une âme. J'ai pas vu d'âme dans cette équipe.
Il y a une équipe qui ressemble à son capitaine, qui, avec toutes les qualités qu'il a, Rongier, ça, il le fait pas.
J'apprécie beaucoup Rongier, j'aime beaucoup ce joueur, mais là, j'ai l'impression qu'il arrivait peut-être à ses limites, je sais pas, en fait. Il a fait mieux quand même.
La saison passée, tu avais quand même un Guendouzi, quoi qu'on en dise, tu avais quand même un Payet qui, dans le vestiaire, pouvait dire. Tu avais quand même un Alexis Sanchez qui était le modèle. Lui le faisait, donc tout le monde le faisait. Et là, aujourd'hui, qui le fait, quoi?
Il n'y a personne qui lead cette équipe. Guendouzi, le dernier match avant son départ, il est rentré en cours de jeu, je l'ai regardé. Le mec, il a rengraissé ses joueurs, il dit toi, mets-toi là. Enfin, tu sentais que le mec, il insufflait quelque chose à son équipe. Là, il n'y a personne qui fait ça, en fait. Il y a juste Gigot, à un moment donné, qui a commencé à se friter. C'est ce qu'on veut aussi. On veut des mecs qui aillent au combat, quoi. Et là, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Un vrai manque d'âme dans cette équipe. Et ça me dérange beaucoup.
Un vrai manque d'âme. Est-ce qu'il n'y a aussi pas un vrai manque de colonne vertébrale? Je m'explique. Si on regarde le schéma tactique, donc le 4-3-3, le gardien, Paul Lopez, n'est pas dans la forme de sa vie. On va le dire comme ça. Défenseur central, Chancel Mbemba, pas dans la forme de sa vie. Valentin Rongier, vous venez d'en parler, pas dans la forme de sa vie. Et il joue le poste de sentinelle. Et en pointe, on a Pierre-Emerick Aubameyang. Pas dans la forme de sa vie. Voilà.
Manque de confiance. Gros manque de confiance.
C'est un peu compliqué parce que là, c'est.
Je crois qu'Aubameyang, il est vraiment pas dans la forme de sa vie. Là. C'est au-delà d'un manque de confiance. Bah,
30,
là, il
35 ans, non
ouais. Et qu'est-ce que.
C'est dommage parce que quand on voit signer Pierre-Emerick Aubameyang, on se dit pas mal.
Ouais, on voit un nom. On
a pas vu, mal.
Bah, il y a des noms qui ont aussi.
Voilà, la question, c'est de savoir si ça va devenir comme Alexis Sanchez ou si ça va se terminer comme Morientes. Quoi. C'est juste ça. Il manque de colonne vertébrale. Après, on dit que Kondogbia, quand même, c'est prometteur. C'est un bon joueur.
C'est un super joueur.
C'est pas décevant depuis le début de l'année. Le problème, c'est qu'il joue pas tous les matchs.
Il est blessé.
Oui, après, Mbemba n'est plus le Mbemba de la saison passée. Très loin de là. Paul Lopez, on va pas rentrer à nouveau dans le débat, mais Paul Lopez, c'est un gardien si on fait un classement des 18 gardiens de Ligue 1, vous le situez où, Paul Lopez?
Pas
6-7.
6-7. Ouais, c'est peut-être gentil.
Et
ouais.
Encore, ouais.
Bon, allez, moi, 6-7.
Sur cette saison-là.
Mais 6-7. On va dire 6-7. Mais l'OM a besoin de 2-3.
Quand tu prends 3 buts de la même manière dans l'angle, il y a un moment donné, je sais pas, quoi, je comprends pas. C'est pas possible. Alors, oui, après, il fait des arrêts, c'est bien, cool. C'est un peu son métier. Mais se prendre 3 buts de la même manière, moi, c'est un truc.
C'est-à-dire qu'il y a débat sur lui. Là où il y a le débat sur lui, c'est quand Pablo Longoria dit je veux m'entourer des meilleurs, je prends les meilleurs. Pour Lopez, c'est pas le meilleur, quoi. Je veux dire, c'est pas le meilleur gardien espagnol, c'est pas le meilleur gardien en France.
Il va se défendre en disant ça, mais peut-être qu'il a essayé d'autres gardiens, on sait pas, et que ça a échoué.
Il y a eu des discussions avec d'autres.
Et je pense que du coup, ça a échoué, et donc pour rassurer son gardien, il a dû tenir ce discours pour éviter que.
Maintenant, du coup, on fait quoi? Parce que là, on est désolé, mais on est quasiment sur un tir en but.
Là, on est engagé jusqu'à minimum mercato d'hiver, donc là, on n'a pas le choix. Donc je pense pas que Blanco.
Donc c'est de la calinothérapie, voilà, et on n'a pas
le. C'est le rôle de Gattuso. C'est.
Après, il a, je crois qu'il est quand même très apprécié dans le vestiaire pour Lopez.
Humainement, il est
au top. Donc, c'est aussi une question de confiance. Ce qui est, on a l'impression qu'il ne franchit pas le cap pour être un très grand gardien. Quoi. C'est un bon gardien qui ne réussit quasi. Alors, de temps en temps, il y a des parades, on se dit, oh, pas mal. Puis la faute d'après, il se prend un but que même toi, tu aurais arrêté.
C'est son métier, quoi. Il y a un moment donné.
Il n'y a jamais d'exploit, quoi.
Non, mais
il y a jamais d'exploit.
Il y a un très bon match, pour être honnête, il y a un très bon match contre Brest.
C'est un match tous les 8 matchs. Quoi.
Voilà.
Le problème, c'est que derrière, t'as une défense qui est en panique, en fait. Sur chaque phase défensive, corner et tout, le gardien ne les met pas en confiance.
Est-ce que ça expliquerait la méforme d'Mbemba?
Je suis pas sûr que ça expliquerait ça, mais je pense que ça peut jouer dans les têtes de se dire bon putain j'ai un gardien.
Mbemba, il y a quelque chose qui a dû se passer printemps dernier pour qu'il a commencé à plus jouer. Tu te rappelles, il jouait plus.
Il revient personne de sélection.
Personne n'a percé le mystère, mais il y a quelque chose. Et à partir de ce moment-là, il a décliné. Il est plus du tout le Mbemba de la première partie de saison.
Et moi, je vais me faire l'avocat du diable. Mais pourquoi Balerdi, pareil, comme Mbemba l'année dernière, il est mis un peu au placard alors que.
Ah mais là c'est sûr qu'entre les deux, je veux dire, même Balerdi peut être largement relancé là. Il y a pas de...
Bah clairement, sur Balerdi.
Vous le mettriez vous jeudi? Tiens, quelle serait votre charnière contre Brighton jeudi?
Je mettrais Balerdi, ça c'est sûr.
Balerdi Gigo.
Pas Momeïté encore trop.
Je connais pas assez. Moi je pourrais pas te dire.
Je pense que Meïté serait bien contre le Havre. En Coupe d'Europe là, d'entrée titulaire
de Lorient.
Titulaire au Vélodrome.
Oui, contre le Havre. C'est un adversaire à ton niveau, tu peux mettre un.
Après, je sais que l'OM y croit beaucoup en Momeïté.
Mais il est jeune. Faut pas le lancer directement dans le grand bas, surtout avec une équipe un peu malade comme ça. C'est...
Mais là, bon, on peut difficilement faire pire qu'actuellement. Donc,
On va voir le classement. Je vous le disais en introduction, l'OM est 12e. Alors, à cette période de la saison, on va se dire que ce n'est pas rédhibitoire. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à égalité de points. Mais nous sommes, je vous le rappelle, sur un championnat à 34 journées et plus 38. Du coup, Alexandre, question, tu me vois venir. L'OM va jouer jeudi contre Brighton en Europa League, deuxième journée de phase de poule. Il y aura la 8e journée avec la réception du Havre. Au Vélodrome, ça sera dimanche à 13h. S'il faut gagner un seul match sur les deux, c'est lequel ?
Le Havre. Pour la confiance, pour le championnat, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre de lâcher le championnat, de prendre trop de retard dès maintenant le championnat, parce qu'on sait très bien comment ça se passe à Marseille. Si en novembre on voit que l'OM, il peut y avoir encore crise sur crise, donc il vaut mieux quand même rester collé au tableau, j'y pas d'être dans les trois premiers, parce que là, ça, c'est pour l'instant, c'est mal parti. Mais au moins d'être dans les 5-6, parce que sinon la saison peut très rapidement être catastrophique.
Même avis ?
Je sais pas, t'as vu, on en est quand on doit se demander lequel des deux matchs on doit gagner. Alors,
c'est ma question, on peut aussi, on peut gagner les deux, hein, on se le souhaite d'ailleurs.
Il faut gagner les deux, t'as pas le choix, mais oui, après je reste sur ton avis, parce que tu gagnes pas contre le Havre, derrière toi ça gagne, tu passes 15e, 14e. Et là, c'est compliqué. La gronde des supporters qu'on connaît. Plus, t'as pas le choix.
Puis au niveau économique, tu vois, on va revenir sur le niveau économique. Il faut quand même essayer de se qualifier en Ligue des Champions en fin de saison. Tu vois,
donc 4, si
tu
voilà, 3 de plus, 4.
La 4, mais ça peut aller vite aussi, quoi.
Bien sûr. Puis ça a l'air très quand même.
La Ligue Europa, c'est très. Non, mais la Ligue Europa, c'est très bien. On signerait tous pour revivre une épopée comme en 2018. Mais est-ce que cette équipe en est capable
à ce jour ? Pas en 2018.
On verra, messieurs, ce que ça donne. En attendant, nous, on va passer à la deuxième partie. Focus sur Longoria et les supporters. De retour sur le plateau de Virage Marseille avec Alexandre Jacquin, chef des sports de La Provence, et Rodolphe Tapie, qui nous fait l'amitié de venir sur le plateau.
Tapie Michaud. Très important. Les deux noms.
Très bien. Très, très bien. Rodolphe Tapie Michaud. Messieurs, on va parler de Pablo Longoria. Je ne sais pas s'il a un deuxième nom. Pablo Longoria et les supporters de l'Olympique de Marseille, parce que oui, il y a eu plusieurs épisodes à une crise. Il y a eu des épisodes d'ailleurs dans la Provence avec un long entretien de Pablo Longoria, Christian Cataldo qui a répondu sur un long format qui est toujours disponible en replay la semaine dernière. Diverses enquêtes qui sont sorties également dans la presse. Est-ce qu'on se dit il va y avoir un retour à la normale, Alexandre, ou ça va suivre le sportif et à la moindre défaite, ça risque de sauter?
Là, par expérience de nombreuses années de crise depuis que je couvre l'OM, plus l'expérience de Marseillais, j'ai 42 ans, j'ai pas l'impression que ça va rentrer dans l'ordre très vite comme ça. Quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe après, maintenant on a les intendants qui sont tous mis de côté. Je vois pas la situation s'arranger. Alors oui, pendant quelques semaines, ça va peut-être se calmer un petit peu, mais je pense pas que ça puisse rester en l'état comme ça, avec ce statu quo pendant des mois. Là.
Mais c'est-à-dire, par l'État, qu'est-ce qui peut se passer ?
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'essaie de me placer des deux côtés. On a des supporters qui ont des revendications contre la direction. Certaines exagérées. Dans leur communiqué, il y a du frais, il y a du vrai, il y a du faux. Je veux dire, du vrai quand ils se plaignent du traitement des joueurs majeurs, on peut que qu'acquiescer et dire oui, c'est vrai, le traitement de Payet, le traitement de Mandanda, le traitement d'Alexis Sanchez, le traitement de Guendouzi, il y a de l'exagéré, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une réunion de supporters comme ça, on les connaît ces réunions-là, elles jalonnent l'histoire récente de l'OM, mais même déjà à l'époque de ton grand-père.
Monsieur Cataldo, il faisait référence en disant Bernard Tapie, il nous rentrait dedans et
ce sont des réunions qui jalonnent l'histoire de l'OM. Ce sont des supporters qui parlent fort, on les connaît, ça excuse pas ce qu'ils aient pu dire ou pas dire, mais quand on est président, on doit dire c'est bon. Voilà, c'est bon, ça y est, stop, bon. On parle maintenant, on se redonne rendez-vous demain, et on fait la suite, et on apaise. Et donc, le problème, c'est que ça donne l'impression d'une fuite. C'est-à-dire qu'il s'est passé ce qui s'est passé à La Réunion, avec des mots prononcé fort. Nous, de notre côté, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu vraiment des menaces verbales prononcées à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a eu, mais nous, elles ne sont pas revenues jusqu'à nous, journalistes. Sauf qu'à un moment donné, le président doit s'imposer. Il doit prouver qu'il a la stature d'un président à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il doit se dire, et son entourage, ses conseillers, Javier Ribalta, qu'on n'a plus revu depuis, doivent lui dire, non, mais Pablo, on attend, on va leur parler, ils vont se calmer, et on va expliquer point par point ce qui s'est passé, ce qui s'est vraiment passé. Or là, il y a eu une fuite d'un côté, ce qui fait que les frustrés, les supporters qui se disaient, bon, je sais pas... Ils vont se dire, ouais, mais quand même, Longoria, il aurait peut-être dû s'imposer, ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur la suite. Je me demande comment il va réussir à retourner la situation en sa faveur et retourner les supporters dans son sens. Mmh. Ça me semble compliqué, mais pas impossible, attention, hein, parce qu'une vague une série de très bons résultats, un engouement qui reprend, des bons résultats en Ligue Europa, font que peut-être que pendant 6 mois, ça peut se calmer. Mais le problème de fond, il n'est pas réglé. Et,
c'est ça le problème de fond. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le problème de fond, et il n'est pas sportif. Le problème, il va bien au-delà du sportif. On parle de ce qui s'est passé au centre de formation. Ils n'ont pas pu tout dire dans le communiqué, parce qu'il y a des enquêtes en cours. Il va bien au-delà du sportif. T'auras beau enchaîner 6 victoires de suite, être deuxième de Ligue 1, le problème de fond.
Non, mais qu'est-ce que le problème, qu'est-ce qui s'est passé au centre de formation, tu vois? Non, mais je veux dire, on en est. Tu vois, l'histoire des féminines. On a fait notre travail de journaliste. On a expliqué l'histoire. Évidemment, l'histoire, c'est pas beau. Non, mais c'est pas beau de laisser des petites se changer. On l'a raconté dans la Provence. C'est pas beau. Il y a eu faute. Voilà, qui, quoi, comment. Il se trouve qu'il faut peut-être dédouaner, j'en profite que je suis sur le plateau pour dédouaner le pauvre gardien du stade Hainaut que l'OM a chargé dans notre papier, parce qu'apparemment, lui, il a juste dit « Je ferme les Algeco 9, allez-vous changer dans mon local technique ?» Sauf qu'en fait, les encadrants de l'OM ont dit au final « Non, mais allez-vous changer là-bas derrière, c'est bon, et on s'entraîne. » Voilà ce qui s'est passé sur les féminines. C'est regrettable, on peut sanctionner, on peut dire « Bon, ça aurait pas dû se passer. » De là à demander la démission du président,
Oui, c'est peut-être...
Je veux dire, tu vas te dire une bêtise ici, sur le plateau, on ne va pas demander la démission de Fogiel, quand même.
Enfin, non. Mais non. Après, comme tu dis, c'est que je pense qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé en interne. Je suis assez proche de certains groupes de supporters. Il y a des plaintes de familles auprès des groupes, parce que c'est ceux qui sont le plus écoutés, c'est les Rachid Zerwal, c'est ces groupes-là. Et voilà, il y a des enquêtes en cours, ils ne pouvaient pas en parler dans le communiqué. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je n'en sais rien, mais je sais que le problème va bien au-delà du sportif. Et
je dis pas que le centre de formation fonctionne bien, attention. Hein, je veux dire, on le voit
en résultat. Avant, on voulait imputer ça à Pablo Longoria. C'est pas comme si avant.
Et sur les 36 joueurs, il faut voir quelle carrière. Il y en a quelques-uns qui sont prometteurs, c'est vrai. Il y a quelques-uns. Sauf qu'après, nous, l'explication qu'on a au niveau des nouveaux responsables du recrutement à l'OM, c'est qu'on nous dit bon, ben, c'est des bons joueurs, mais aujourd'hui, pour l'OM, on veut du très bon. C'est une explication sportive. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'entend. Mais oui, après, de là à ce qu'on ait une crise, telle crise.
Tu peux changer des jeunes joueurs. Je pense que c'est pas interdit par la loi de virer des jeunes pour en mettre d'autres. Enfin, je ne connais pas après, mais je pense qu'il n'y a pas de.
C'est d'ailleurs un peu l'idée du nouveau centre de fonctionnement et du centre de formation. C'est pour ça que les équipes de très jeunes ont été arrêtées. Parce que l'idée de dire on ferme ces classes-là pour éviter d'avoir à dire à 45 enfants, parce qu'on en garde 5 sur 50. Pour éviter d'avoir à dire à 45 parents, ben ça s'arrête, et de dire ben on ira en chercher 5 dans d'autres clubs, c'était un fonctionnement voulu par la nouvelle direction. Concernant le sportif, on va voir un peu les 8 départs, les 8 arrivées. Est-ce que effectivement, vous l'avez dit dans la première partie, je ne vous ai même pas lancé sur le sujet, il y a peut-être des caractères en moins. Voilà, vous regardez les 8 arrivées majeures et les 8 départs majeurs. Il y en a peut-être 7 là avec le bandeau, mais expliquez-moi un peu, est-ce qu'on y perd? Est-ce que ça justifie? Est-ce qu'on se dit ce mercato est moins bien que les autres, donc Longoria doit s'arrêter? Quelle position? Ou on attend un peu? Ou est-ce que parmi les... Les arrivées, il y en a qui sont...
Ce mercato, c'est même pas tant les arrivées qu'il faut juger, c'est plutôt les départs. C'est-à-dire que quand au mois de janvier, on voit le forcing pour prendre Malinowski, qui trois mois après, il y a forcing pour le faire partir, là déjà, on se dit, bon, erreur. C'est pas la première erreur. Il y a des joueurs qui arrivent, qui partent, des joueurs qui arrivent. Luis Suarez l'année dernière, la Malinowski, Bakambu, on peut en citer des erreurs de recrutement, il y en a eu. Mais après... Ça, ce qui ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi aussi. Il y a aussi eu des bons recrutements. Après, que les supporters se plaignent du grand nombre de mouvements et que pour eux, ils estiment que c'est trop, je pense qu'ils ont peut-être raison. Quoi. C'est une question sportive. Voilà.
C'est surtout le départ de joueurs phares. Voilà. On parlait de Payet, de Guendouzi surtout. Enfin, on voit, le mec, il est acclamé comme personne n'a acclamé, hormis Payet. Bah, je ne sais pas, capitalise là-dessus. C'est, en plus, c'est un bon joueur. Il arrive à la Lazio, il fait des super matchs, il est déjà respecté et tout. J'ai jamais compris pourquoi il était mis comme ça de côté par Tudor, par Marcelino. Je trouve ça dommage. Et c'est là où le rôle du président, c'est aussi de driver un peu son coach, comme mon grand-père a pu faire à l'époque. Et c'est là où je voulais en revenir aussi là-dessus, c'est que je pense qu'il a pas un manque de caractère, il a du caractère, mais à la base, c'est pas un président. Président, tu dois avoir des
c'est plus un directeur sportif.
C'est un directeur sportif. Le directeur sportif est un peu plus dans l'ombre. Là, il est en devant de la scène. On le met en avant surtout. Et il faut rappeler aussi un truc, pour le dédouaner aussi de pas mal de choses. C'est déjà de base, donc c'est pas un président. Mais en plus, il est totalement abandonné de son actionnaire. Et à un moment donné, c'est à Macourt de venir, de taper du poing sur la table et d'aller voir les groupes des supporters, enfin d'être en face-to-face avec
eux. Il s'est entouré de proches en qui il a confiance, dont il estime qu'ils sont les meilleurs.
Mais qui sont peut-être pas au fait.
Parce que là, on est en train de parler de fantasmes.
On refera une partie sur le sujet. Voilà, pourquoi pas à la prise de parole de l'actionnaire principal, Franck Macourt. En attendant, on passe à la suite.
Cinquième match sans victoire pour le FC Martigues en national. À Rouen, devant près de 6000 spectateurs, les Martégaux ont pourtant maîtrisé la première période et auraient même pu ouvrir le score à plusieurs reprises, mais sont tombés sur un très bon gardien. En deuxième période, la tendance s'est inversée. Les Sang et Or ont résisté grâce à Jérémy Emmes, impérial dans ses buts. Un nouveau 0-0 pour Martigues qui n'a marqué qu'un seul but en championnat depuis le 1er septembre. Prochain match vendredi à domicile face au Mans. Handball, premier succès à l'extérieur cette saison du Pays d'Aix, vainqueur à Dijon vendredi soir. Une large victoire maîtrisée de bout en bout par des Aixois sérieux, aussi bien offensivement avec 10 buts inscrits par Gaby Lush, meilleur marqueur, que dans les buts où Denis Serdarevic a fait le travail, auteur de 14 arrêts en seconde période. Victoire 33-26 du POC qui voudra confirmer dans une semaine face à Chartres. En hockey, les Spartiates n'y arrivent toujours pas loin de leur base. Sur la glace de Richard Bozon à Chamonix, Marseillais et Savoyards se sont d'abord répondu court sur coup. Malovi marque d'entrée pour les pionniers, mais Tyler Rockwell ramène les deux équipes à égalité en début de deuxième tiers. Julius Persson redonne alors l'avantage aux pionniers avant que Teddy Dacosta réponde pour égaliser à un quart d'heure de la fin du match. Miko Kuka marque le troisième but chamoniard 5 minutes plus tard, scellant ainsi la victoire de Chamonix, 3-2. Et puis un mot de MMA, le Vauclusien Yazid Chouchane a marqué des points au PFL au Zénith de Paris samedi soir. Le combattant provençal du Marseille Fight Club s'est imposé face au Brésilien Henrique Madureira, la décision unanime des juges. Un succès de bon augure pour le Vauclusien qui espère désormais combattre au prochain événement du PFL à Dublin le 8 décembre.
Voilà, c'est tout pour cette émission pour Virage Marseille qu'on retrouvera lundi prochain. Merci Alexandre, merci Rodolphe.
Merci Romain.
À très vite.